Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce libre journal de la plus grande France, Benjamin Blanchard au micro. Donc Henri de Villiers, rebonsoir. La dernière fois, nous avions commencé, nous étions remontés dans les temps très anciens avec les premiers temps de l'Église, la création des trois patriarcats, les deux premiers conciles, et puis on était arrivé au troisième concile à Éphèse. Avec les premières divisions et la première branche, et on avait longuement parlé de cette église de l'Orient,
oui,
qui avait un temps suivi les hérésies nestoriennes, qu'on appelle aujourd'hui église assyrienne de l'Orient. Et donc, en continuant à dérouler la liste des conciles, on arrive tout naturellement au quatrième concile de Chalcédoine et ses conséquences, puisque là, les divisions vont être encore plus nombreuses.
Et puis plus terribles encore pour leurs conséquences sur l'avenir de ces chrétientés.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, donc, quand a lieu le concile de Chalcédoine et pourquoi ?
Alors, il arrive 20 ans après celui d'Éphèse. Donc, en fait, c'est une très courte génération et les protagonistes d'Éphèse sont toujours en vie pour la plupart. Éphèse, c'est donc 431 et Chalcédoine 451. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'à Éphèse, on a condamné la théorie de Nestorius, patriarche de Constantinople, lequel avait convoqué le concile avec l'empereur, du reste, et il s'est fait déposer au cours du concile.
Mais il n'est pas convoqué à Chalcédoine.
Non, il est en exil, je ne sais plus s'il est déjà mort ou pas. Et puis, ses partisans sont déjà bien dispersés, il n'y a pas vraiment, dans l'Empire en tout cas, de fort courant nestorien. Le nestorianisme va s'épanouir en Perse, plus par opportunisme politique, comme on l'a dit, pour essayer, pour ces chrétiens de Perse, de se démarquer de la ligne officielle de l'Empire byzantin et pas être considéré comme une cinquième colonne de l'intérieur. Le nestorianisme, en fait, pour rappeler quand même à nos auditeurs ce que c'était, c'est cette hérésie de Nestorius qui voulait dénier à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu. C'est vrai que, à première vue, ça paraît énorme d'appeler une femme, une créature, Mère de Dieu, Créateur. Et Nestorius ne voulait uniquement titrer la Vierge de Mère du Christ. Et ce faisant, ça le conduisait à faire une dichotomie importante dans le Christ entre les deux natures, divine et humaine, et ça, tous les chrétiens sont d'accord pour confesser qu'il y a deux natures qui se sont unies au moment de l'incarnation. Mais plus que deux natures, en fait, il arrive à une division en deux personnes de la personne du Christ. En fait, au lieu d'être un seul individu, il y a deux individus qui coexistent dans la même entité, en quelque sorte, et avec deux volontés différentes, avec deux agirs différents, oui. C'est un peu la conséquence des pensées aussi de l'école d'Antioche, de l'école philosophique d'Antioche. Et Saint Cyrille de Jérusalem a vu le danger. Il ne s'agissait pas simplement de défendre le titre de Mère de Dieu, ça allait bien plus loin, puisque quelque part, le nestorianisme induisait que l'être humain, finalement, était une chose si peu valorisante pour Dieu qu'il concédait à s'incarner, mais pas vraiment quelque part, et qu'il n'y avait pas de vraie union.
En fait.
Oui, les deux natures gardaient leur distance et il n'y avait pas vraiment dans l'incarnation ce mystère insondable de Dieu qui devient homme. C'était une incarnation d'apparence quelque part. Et pour réfuter ces thèses, Saint Cyrille avait écrit à Nestorius, avait notamment écrit des lettres à Nestorius, dont l'une d'entre elles se termine par 12 anathèmes. Patriarche d'Alexandrie. Oui, pape d'Alexandrie. Et que le pape de Rome a proclamé au XIXe siècle docteur de l'Église catholique. Saint Cyrille donc anathémise les positions de Nestorius, et ces anathèmes ne sont pas forcément toujours formulés tous de façon très claire sur l'union des deux natures divines et humaines dans la personne du Christ. Et Nestorius est déposé, on fait la chasse dans l'Empire à ses partisans, et on fait tellement la chasse que finalement on va avoir un effet de balancier, et à force de réfuter la division des deux natures, on va finalement à tomber dans l'hérésie inverse, en fait, le monophysisme qui va être le fait d'un moine de...
Alors c'est très rapide.
C'est très rapide, oui, c'est en quelques années. C'est un moine bien oublié d'ailleurs. Autant c'est clair, quand on parle de nestorianisme, on voit bien qui est l'auteur en la personne de Nestorius, mais le monophysisme dont on va parler, on a bien oublié son fondateur, qui est un archimandrite, un abbé, on pourrait dire, de la banlieue de Constantinople, Eutychès. Un moine assez influent parce qu'il a l'oreille de l'impératrice et le grand chambellan de la cour qui est un eunuque et son filleul, donc il va avoir une très forte influence sur l'empereur Théodose II et dans son zèle un peu trop fanatique contre les thèses de Nestorius va développer des thèses inverse, c'est-à-dire que là, certes, dans le Christ, les deux natures se sont unies, mais la divinité est tellement importante que finalement l'humanité a été écrasée par cette divinité. Et dans l'agir du Christ, dans la volonté du Christ, il n'y a plus que Dieu qui s'exprime et l'être humain a disparu, la nature humaine disparaît quelque part.
C'est une sorte de Raspoutine.
Un peu, oui. Et il y a aussi, bien sûr, dans tout ça, des considérations politiques qui nous échappent désormais, mais qui étaient très présentes dans l'esprit de cette époque, hélas. La formule qui va faire exploser le patriarche de Constantinople, la formule de Tychès, c'est que la nature humaine et la nature divine se sont unies comme une goutte d'eau qui se serait jetée dans l'océan, en fait. La nature humaine, c'est la goutte d'eau et qui est tombée dans cet océan de la divinité, et finalement il ne reste plus grand chose de la nature humaine dans le Christ.
La nature humaine se dissolverait dans la divinité.
Oui, oui. Et une thèse un peu extrême, et qui là encore est aussi une atteinte quelque part au mystère de l'incarnation. C'est difficile de parler de ce mystère car c'est fou de la part de Dieu d'avoir choisi de devenir homme, mais là on est quand même dans une incarnation, là encore un peu de façade, c'est-à-dire que Dieu consent à prendre une apparence humaine, une chair humaine, mais celle-ci disparaît, ne s'exprime plus en fait. C'est vraiment le contrepoint du nestorianisme, mais c'est un contrepoint extrême. Et cette phrase a un grand succès, la goutte d'eau qui tombe dans l'océan. On débat énormément dans tout l'Empire sur cette question. Et le patriarche de Constantinople, qui est Saint Flavien, réunit un synode qui excommunie Tychès. L'excommunication se fait en 439 de mémoire et Eutychès se fait appel au pape qui est le grand pape formidable de cette époque, un grand théologien qui est Saint Léon le Grand, un docteur vraiment d'une grande clarté, d'une grande limpidité et aussi d'une grande énergie au service de l'Église. Il fait appel à l'empereur. Alors là, chance pour lui, c'est quelque part, il l'a dans sa poche, puisqu'il a des appuis puissants à la cour, Théodose II. Et il fait appel aussi au patriarche d'Alexandrie, contre le patriarche de Constantinople.
Donc Saint-Cyril.
Alors Saint-Cyril est mort en 444, un peu après Éphèse, et c'est son successeur qui est Dioscore, un personnage un peu complexe et pas forcément toujours sympathique. Et le patriarche Dioscore voit aussi l'opportunité pour lui de reprendre le leadership sur Constantinople, car on en avait parlé la fois dernière.
Voilà. Les trois patriarcats, avec dans l'ordre protocolaire Rome, Alexandrie et Antioche. Et en fait, on intercale Constantinople entre Rome et Alexandrie.
Pour des raisons politiques, parce que c'est devenu la seconde capitale de l'Empire, la capitale de l'Empire d'Orient. Et donc, le patriarche de Constantinople d'Alexandrie n'a pas vraiment digéré cette disposition du premier concile de Constantinople de 381. Et il bénéficie aussi, Dioscorne, de l'aura de son prédécesseur. C'est le successeur de Saint-Cyril, et Saint-Cyril est le champion d'Éphèse. Il a quelque part sauvé la pensée de l'Église sur l'incarnation, et il va un peu se prévaloir de cela pour quelque part être lui-même un docteur universel. Dioscore se pose comme le garant de l'orthodoxie dans toute l'Église, aussi bien d'Occident que d'Orient. C'est le pape d'Alexandrie, et il ne veut pas renoncer à ses privilèges. Il se fait même déjà appeler patriarche écuménique. L'écuménique, donc, c'est cette idée que finalement il gouverne le monde entier quelque part. Et ses partisans lui donnent ce titre. Alors, tout ça s'agite.
Alors qu'Alexandrie n'avait juridiction que sur l'Afrique.
Que sur l'Afrique, oui. Et finalement, Eutychès arrive à convaincre Dioscore, surtout qu'en fait Eutychès quelque part est un champion de la théologie de Saint-Cyril d'Alexandrie, et le pape est plus réservé. Saint-Léon le Grand reçoit un peu les lettres de Flavien, le patriarche de Constantinople, la défense d'Eutychès, cette histoire de goutte d'eau qui se perd dans l'océan, ça ne lui plaît pas. Mais l'empereur Théodose II décide de réunir un concile. Le pape ne donne pas vraiment son assentiment à cette réunion de concile écuménique, et on fait un concile, le second concile d'Éphèse, qui est oublié parce qu'en fait il ne fait pas partie de la liste des conciles écuméniques, comme on va le voir. Le concile se réunit à nouveau à Éphèse, donc pour la deuxième fois après celui
donc
de...
Donc en quelle année?
Alors c'est 449. Et là, ça se passe vraiment très très mal. Flavien est au concile, mais c'est Dioscore, le patriarche d'Alexandrie, qui préside le concile. Les légats du pape arrivent comme toujours en retard, et lorsqu'on veut lire la lettre du pape de Rome, de Saint Léon le Grand, eh bien, on leur coupe la parole et on leur empêche de lire le message du pape. Et le message du pape était...
Est-ce que tous les évêques avaient pu venir?
Non, ils n'étaient pas si nombreux que ça, ils étaient environ 150. Enfin, les conciles, c'est très difficile d'avoir exactement un nombre précis d'évêques, car tous ne restent pas forcément pendant la durée des travaux du concile, donc on a des chiffres qui fluctuent selon les sessions du concile, et ils ne sont pas très très nombreux, beaucoup moins nombreux que plus tard, deux ans après à Chalcédoine. Et comme par hasard, la convocation du concile est faite entre Dioscore et Théodose, et là l'empereur et le patriarche d'Alexandrie s'entendent déjà pour faire venir uniquement les gens qui leur plaisent au concile. Donc il fabrique une majorité quelque part. Notamment, il y a un grand scandale qui choque beaucoup les consciences, c'est qu'on convoquait au concile non seulement les évêques, mais également les abbés de monastères. Et là, au lieu de, contrairement aux autres conciles, d'inviter la plupart des abbés majeurs de tous les monastères d'Orient, on n'en choisit qu'un seul, qui évidemment est dans les positions de Tychès et de Dioscore. Arrivé sur place, donc ça se passe très mal, il y a des échauffourées, on se bat.
Constantinople et Antioche sont là.
Antioche est là, mais Antioche est assez choqué des procédés du concile, du second concile d'Éphèse. On frappe le pauvre patriarche Saint Flavien en plein concile, on le moleste.
Saint Flavien, qui est le patriarche de Constantinople.
On le dépose. Ce qui est très fréquent à l'époque, on a la chance en Occident d'avoir une vie ecclésiastique plus calme qu'en Orient à cette époque, parce que tous nos papes restent en place, alors que si vous regardez dans les 4e, 5e, 6e siècle, les listes des patriarches d'Antioche, de Constantinople et d'Alexandrie, c'est effarant, et ils sont tous déposés, ils reviennent trois fois sur leur trône, ils sont remplacés par le partisan inverse, c'est quand même assez terrible. Et donc, alors ce qui choque quand même les évêques, c'est un coup de force, hein, c'est un coup de force de Dioscore. Et ce qui choque les évêques, c'est surtout qu'on n'ait pas lu le message du pape. Et ce message est fondamental. Il est magnifique, on l'a. C'est ce qu'on appelle le Tome à Flavien. C'est un très long ouvrage de Saint Léon. Et Saint Léon pose une doctrine claire sur l'incarnation et sur l'union des deux natures. Sa phrase, je l'ai notée, je vais vous la lire. Une phrase clé de ce Tome à Flavien, c'est, dit Saint Léon, le Christ est une personne, donc il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, possédant deux natures unies entre elles, sans confusion, sans changement, sans division ni séparation. Et c'est cette définition de Saint Léon le Grand qui sera reprise au Concile de Chalcédoine 2 ans après. Ce concile d'Éphèse se passe si mal que le pape va dire qu'il l'appelle le brigandage d'Éphèse. Et
comment se fait-il que le pape ne vienne pas en personne? C'est constant au concile.
C'est un peu étrange, effectivement, mais c'est une constante dès le concile de Nicée, en fait. En même temps, en Occident, on a des conciles locaux. Hein. On a même eu des conciles en Occident avant l'Orient, semble-t-il. Mais c'est des conciles provinciaux, où quand même, il y a parfois 200-300 évêques. Mais le pape, en fait, pour ses conciles écuméniques, celui de Nicée déjà, celui de Constantinople ensuite, celui d'Éphèse également, n'envoie que des légats, des délégués, des ambassadeurs en quelque sorte. Et dans ces conciles dits écuméniques, en fait, c'est surtout des conciles d'orientaux, car les évêques occidentaux sont très peu présents. À Chalcédoine, je crois qu'il y a 5 évêques occidentaux, dont 2 qui étaient là un peu par hasard parce qu'ils avaient été exilés. Donc
ça reste quand même des débats
inter-orientaux. Ça reste des débats orientaux qui échappent largement à l'Occident.
Est-ce que c'est de là que vient l'expression d'Orient, débat du sexe des anges?
Alors c'est un peu plus tard, mais là il faut aller au 15e siècle. On prétend effectivement qu'il y a eu un concile qui a débattu du sexe des anges pendant que les Turcs attaquaient Constantinople. Mais bon, ça tient un peu de la légende. Mais effectivement, on a peine à concevoir l'âpreté de ces discussions théologiques et la violence que ça a pu engendrer dans la société. Ça passionnait les foules et en fait entraînait quand même des réactions d'une violence qui peut nous échapper de nos jours. En tout cas, ce byzantinisme, c'est un terme qu'on emploie aussi en français, peut être un peu choquant quand même, parce que malgré tout, la charité n'a pas toujours primé dans ces affaires. Mais en même temps, il fallait quand même avoir une position claire sur...
C'est aussi parce qu'ils étaient très chrétiens.
Sur l'incarnation.
Ils se sentaient concernés.
Oui, tout à fait.
Quand tout le monde s'en fiche, c'est sûr qu'ils ne risquent pas de provoquer des grands débats.
Alors le brigandage des faits se passe, le latrocinium, comme l'appelle Saint Léon le Grand, on traduit ça par brigandage. Donc ce concile d'Éphèse de 449 n'est pas retenu dans la liste des conciles œcuméniques. Il favorise Eutyches et réhabilité, donc on lève son excommunication, on le restaure à la tête de son monastère. Flavien, le patriarche de Constantinople, est déposé. On l'exile, et le pauvre, d'ailleurs, après avoir reçu tant de coups en plein concile, meurt quelques jours en partant pour l'exil, en fait. Il décède, il est considéré comme ça. C'est la naissance, en fait, de ce mouvement qu'on va appeler le monophysisme. Alors, pourquoi monophysisme? Puisque monophysis, c'est la nature de Dieu, finalement, la nature divine prime dans l'incarnation, et la nature humaine se dissout comme une goutte d'eau dans l'océan, en fait, pour reprendre la formule de Tychès. La chance, quelque part, pour la foi catholique, c'est que l'empereur meurt juste après. Théodose II, et son successeur n'est pas aussi favorable, la nouvelle impératrice en particulier, ça passe beaucoup par les femmes à cette époque-là, ne sont pas aussi favorables au camp de Tychès qui agite encore beaucoup les rues de Constantinople. Le pape aussi n'est pas du tout, et le pape est furieux, Saint Léon le Grand est furieux de ce pseudo-concile d'Éphèse et va essayer de favoriser la réunion d'un nouveau concile. Où là, pour une fois, le pape va être très, même s'il n'est pas là, où la diplomatie du pape de Rome va être très très active. On peut considérer que les premiers conciles, celui de Nicée et Constantinople, étaient des débats orientaux auxquels l'autorité du pape de Rome venait mettre un sceau en disant oui, c'est vrai, c'est correct ce que vous avez fait, à quoi vous êtes arrivé dans vos débats, c'est ce qu'il faut penser. Mais là, au contraire, Saint Léon le Grand va prendre l'initiative et va faire réunir par l'empereur un deuxième concile 2 ans après, hein, donc c'est très très rapide, à Chalcédoine. Chalcédoine est une petite ville en face de Constantinople. Elle existe encore en Turquie actuelle. On peut voir toujours la basilique dans laquelle...
Côté asiatique. Donc.
Côté asiatique, oui. Dans laquelle le concile s'est réuni, la basilique de Sainte-Euphémie. Et là, c'est le premier concile à réunir autant d'évêques.
Elle est toujours debout, cette basilique ?
Elle est toujours debout, oui.
Vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri Adam de Villiers, donc maître de chapelle de la paroisse Saint-Eugène, Sainte-Cécile à Paris et de la paroisse de la Très-Sainte-Trinité des Russes catholiques dans le 16e arrondissement, rue François-Gérard. L'émission est intitulée « Église d'Orient, pourquoi autant de divisions ?» Et nous en sommes à la seconde émission sur ce sujet. Il y en a sûrement d'autres. Et nous arrivons tout juste...
Trop de divisions.
au concile de Chalcédoine. Donc vous disiez, Henri Adam de Villiers, que le concile Chalcédoine est une petite ville en face de Constantinople, voilà. en Asie mineure. Et donc, c'était le premier concile où il y avait autant d'évêques, donc oui. Le quatrième concile œcuménique.
On estime qu'ils ont été jusqu'à 600 évêques lors de ce concile, ce qui est considérable, hein. On avait moitié moins à Nicée, parce que la question agite quand même beaucoup les esprits. Le concile est réuni comme d'habitude par décret impérial, c'est l'empereur Martien qui a succédé à Théodose II qui lance le concile, mais à la demande expresse du pape de Rome, et ça c'est la première fois en fait, hein, dans l'histoire des conciles, que le pape prend l'initiative de réunir un concile.
Et alors comment réagit le pape d'Alexandrie ?
Bah, très mal, puisqu'il est déposé par le concile.
Donc il vient quand même au concile.
Je ne suis pas sûr qu'il ait été invité. Mais il est déposé et Tychès est à nouveau excommunié une seconde fois. Flavien est réhabilité post-mortem. Le concile va... Chalcédoine, c'est très intéressant aussi parce que dans sa démarche, il va synthétiser tous les conciles précédents, c'est-à-dire Nicée, Constantinople et Éphèse, le premier véritable concile d'Éphèse, pas le brigandage. Et il va renouveler la condamnation de Nestorius. Il va reprendre la définition du tome à Flavien de Saint Léon en disant que on ne supprimait pas la différence des natures en disant qu'elles se réunissaient dans une seule personne. Donc c'est le mystère d'une personne composée de deux natures différentes, qui était bien réelle, qui ne se mélangeait pas, l'une n'écrasait pas l'autre, l'une ne diminuait pas l'autre. Elles étaient égales sans mélange ni confusion. Le concile se passe quand même dans des meilleures conditions générales. Enfin, on se bat pas. La police impériale n'a pas besoin d'intervenir comme au brigandage d'Éphèse. Et en fait, le concile pose une
doctrine. Ça dure longtemps ?
Plusieurs mois, oui. Les sessions sont assez longues malgré tout.
Et la majorité, est-ce que la majorité est claire ou
oui, très claire. Et le grand reproche, le premier grand reproche dans les débats, puisqu'on les connaît, le premier grand reproche des évêques, dans leur grande majorité, c'est pourquoi vous n'avez pas lu la lettre du pape au brigandage d'Éphèse, en fait. C'est ça qui les a particulièrement choqués, en fait, parce que ça rompait tout débat. Et quelque part aussi, on a encore en Orient cette perception claire que le successeur de Saint-Pierre a la responsabilité de la bonne marche de l'Église, doctrinalement parlant. Pas pour l'administration, pas pour décider si un tel sera évêque ou pas, mais c'est considéré par encore l'immense majorité des chrétiens comme le dernier ressort pour affermir la doctrine de l'Église, selon les paroles même du Christ, qui avait dit à Pierre qu'il affermirait ses frères et qu'il devrait les confirmer dans la foi. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre encore qu'on perçoit Rome comme le phare qui doit éclairer l'Église à l'époque, hein, y compris de l'Orient, et c'est l'Orient qui est demandeur. Les suites du concile, l'empereur, comme d'habitude, dépose tous les adversaires, tous les partisans d'Eutychès. Et on a à peu près toute la fin du 5e siècle, on débat, hein, l'affaire n'est pas réglée, mais ça reste assez calme en fait.
Alors, simplement, je reviens un petit peu en arrière, toutes les régions, les grandes régions chrétiennes étaient-elles représentées au concile ?
Oui, y compris les régions extérieures. Hein. Bon, j'ai rappelé tout à l'heure qu'il n'y avait que 4 ou 5 évêques occidentaux, les légats du pape en plus, mais l'Orient est bien représenté. Hein. L'Égypte est là, Antioche est là.
Est-ce que l'Arménie est là ?
L'Arménie, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Mais ils étaient hors d'ordre de l'Empire et quelque part, c'est un concile convoqué par l'empereur. Mais je crois qu'il doit y avoir des représentants des Ghassanides, ces Arabes chrétiens qui étaient dans l'actuelle Jordanie et les confins de la Syrie, qui ne faisaient pas réellement partie techniquement de l'Empire. Le concile de Chalcédoine a aussi un canon dont on en a parlé la fois dernière, qui est assez problématique pour le pape. Autant le pape a convoqué ce concile, l'a inspiré, l'a nourri de ses écrits. Et tout d'un coup, subitement, on a le 28e canon qui est décidé, qui est voté par les pères du concile. Et ce 28e canon pose que Constantinople est l'égal de Rome. Et là, le pape Saint-Léon le Grand refuse ce 28e canon. Ça ne passera jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que le 28e canon du Concile dit que il faut accorder la même primauté d'honneur au patriarche de Constantinople à égalité avec le pape de Rome, car... dit le concile, car Constantinople est la seconde capitale de l'Empire. Et la justification du canon n'est que administrative et pas spirituelle. Et le pape réplique, oui, mais qui a fondé l'église de Constantinople ? Nous avons été fondés par Saint-Pierre, Saint-Paul, qui ont versé leur sang à Rome. Nous sommes le successeur de Saint-Pierre. La légende comme quoi Saint-André aurait établi l'église de Byzance en passant n'est pas encore vraiment établie. On essaie, l'empereur hein, et puis le nouveau patriarche qui a succédé à Flavien essaie de passer en force et ils parviennent puisque le 28e canon est voté et signé par les pères du concile, essaie de mettre sur un pied d'égalité Rome et Constantinople. Ce qui est intéressant aussi et ce qu'il faut percevoir derrière cette histoire, c'est aussi que je pense l'empereur l'Empire d'Orient a la perception déjà que c'est la fin de l'Empire d'Occident. Et ils se disent, mais on ne peut pas compter sur notre partie occidentale, car ils sont sous les coups des barbares, les invasions ravagent l'Occident en même temps.
Chute de l'Empire romain d'Occident, 476, oui. et Concile de Chalcédoine, 451.
On est déjà dans les invasions, les barbares sont déjà passés à Rome, enfin, c'est une angoisse, je pense, qu'on a peine à percevoir de nos jours de la partie orientale de l'Empire. C'est l'Empire romain d'Orient, mais c'est l'Empire romain et ils se définissent comme les Romains de Constantinople. C'est peut-être à ce moment-là déjà l'idée qu'il faut quand même prévoir l'avenir et se dire que si jamais la papauté disparaît à Rome, il faut avoir une solution de rechange et pouvoir assurer la continuité de l'exercice de l'autorité ecclésiastique dans l'Église. Donc voilà. Alors. Après, pour mieux comprendre après ce qui va suivre, il y a un autre acte important après Chalcédoine qui est bien oublié, qui est quelque part tragicomique aussi. Quelques années plus tard, on a un texte qui paraît en 482, qui s'appelle l'Énoticon. Alors, qu'est-ce que c'est que cet Énoticon ? C'est une volonté de l'empereur de mettre fin au problème né des deux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine et de forcer tous les évêques à adhérer à une position commune. L'empereur Zénon demande au patriarche Acas de Constantinople de rédiger un texte qui est une base minimale. Quelque part, il y a déjà l'idée qu'on va retrouver par la suite à d'autres moments de l'histoire byzantine d'essayer de trouver finalement on s'est disputé, on s'est divisé, est-ce qu'on pourrait pas retrouver un socle commun pour se réunir malgré tout et mettre fin à nos divisions. Alors ce texte finalement, comme tous les textes de compromis, va en général souvent ne va plaire à aucun des deux partis. Les partisans de Chalcédoine et les anti-Chalcédoines vont trouver à redire de ce texte. Pourtant il est quand même pas si mal quand on le lit de prime abord, parce qu'il va reprendre le symbole de Nicée-Constantinople en disant que c'est la base. On n'exige que ça, finalement. Le symbole de Nicée-Constantinople, avérez, vous pouvez penser ce que vous voulez des discussions sur l'incarnation, mais la foi définie à Nicée, puis à compléter à Constantinople, est le minimum pour être chrétien, pour pouvoir se dire chrétien. Et le texte, quand même, renouvelle les anathèmes à la fois de Nestorius et de Tychès. Et il va reprendre aussi les 12 anathèmes de Saint Cyrille, fameux, et qui n'étaient pas forcément très bien rédigés, en tout cas qui pouvaient se lire d'une façon un peu monophysite. Et donc c'était aussi pour plaire quelque part au parti monophysite. Et l'empereur va exiger que tout nouvel évêque dans l'Empire signe cet acte pouvoir devenir évêque.
Mais parce que donc après Chalcédoine, alors même qu'il y avait une forte majorité pour le concile, tout de suite il y a eu des contestations. Est-ce que c'est des contestations qui sont liées à des zones géographiques, des sièges?
Oui, parce que à Chalcédoine, Alexandrie a été humiliée, on a déposé son patriarche et l'Égypte voit, ça passe pas en Égypte. Enfin, l'empereur essaie d'imposer un nouveau patriarche sur le siège d'Alexandrie, mais dès qu'il meurt, hop, les Égyptiens réélisent un nouveau patriarche qui est dans la ligne de Dioscore et de Saint Cyrille, et donc monophysite. Pendant un siècle, on alterne comme ça entre un patriarche chalcédonien, un patriarche monophysite sur le siège d'Alexandrie, et le foyer vraiment de l'opposition à la doctrine de Chalcédoine, c'est Alexandrie dès ce moment-là, enfin l'Égypte plus généralement.
Et à Antioche, comment a pris le concile ?
Les deux écoles, les deux sièges étaient toujours rivaux. Hein. La théologie d'Antioche accentuait la nature humaine du Christ, tandis que la théologie d'Alexandrie avait tendance à effacer, gommer la nature humaine et à mettre l'accent sur la nature divine, en fait. Donc, on avait plutôt, pour synthétiser, une tendance nestorienne à Antioche et une tendance monophysite à Alexandrie. Après, le monophysisme a eu beaucoup de déclinaisons. On regroupe sous le même terme beaucoup de nuances, souvent très très importantes, et la doctrine de Tychès est sans doute la formulation la plus extrême, hein, la goutte d'eau qui se noie dans l'océan. Beaucoup à cette époque émergent pas mal de docteurs, enfin d'évêques qui récusent à la fois les formules de Calcédoine et les formules de Tychès, et essaient de trouver un mi-chemin quand même pour être dans la lignée de la pensée théologique d'Alexandrie. En particulier, l'un d'entre eux qui a joué un très très grand rôle, c'est Saint pour les monophysites, pardon, Sévère d'Antioche, le patriarche Sévère d'Antioche, qui a été patriarche imposé par au début du 6e siècle. Donc là, on avance un petit peu. Et c'est là où les vraies divisions apparaissent, parce que pour l'instant, encore au 5e siècle, encore 50 ans après Calcédoine, il n'y a pas deux églises divisées, en fait. Hein,
on discute. Un seul patriarche d'Alexandrie, un seul patriarche d'Antioche, etc.
Voilà. Tout à fait. Et les doublons, le dédoublement des sièges patriarcaux va se faire au VIe siècle. Va se faire au VIe siècle aussi parce que l'empereur, après Calcédoine, en général est calcédonien, sauf certains d'entre eux qui vont être plutôt dans les idées théologiques du monophysisme, et en particulier Anastase Ier au début du 6e siècle, qui impose Sévère sur le siège d'Antioche. La théologie de Sévère, moi j'aime beaucoup Sévère d'Antioche, c'est pour ça que spontanément je l'ai appelé saint tout à l'heure, parce qu'il a une vie vraiment exemplaire. C'est un ascète, il refuse vraiment les honneurs, et il a une vie personnelle très édifiante. C'est un grand penseur, il écrit énormément, et c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il est un grand hymnographe. Il compose énormément d'hymnes qui sont encore en usage dans l'église jacobite, et même encore dans la liturgie byzantine. On a quelques pièces de lui qui subsistent. On a souvent changé le nom de l'auteur parce que c'était pas très recommandable de donner cette origine, mais il y a encore une hymne qu'on chante tous les dimanches à la divine liturgie byzantine qui probablement est de la main de Sévère d'Antioche. Sévère d'Antioche va avoir une théologie un peu différente. Il va reprendre certaines formulations qui sont déjà chez Saint Cyrille d'Alexandrie, parce qu'on trouve des textes de Saint Cyrille qui ne collent pas avec les définitions de Calcédoine. C'est ça aussi, hein, le gros problème, c'est que dans certaines expressions de Saint-Cyrille, Saint-Cyrille ne parle que d'une seule nature et dans le Christ, et pas de deux natures. La vision explicitée par Sévère d'Antioche, c'est que Sévère va parler d'un théandrisme, c'est-à-dire que il va parler d'une nature qui est composée de deux, en fait. C'est un peu compliqué, mais quelque part, la fusion de la nature humaine et la nature divine crée une troisième nature. C'est un peu l'idée de sous-jacente dans la théologie de Sévère d'Antioche. C'est moins terrible que la goutte d'eau qui se perd dans l'océan, en tout cas. Donc c'est peut-être plus acceptable d'un point de vue
catholique. Mais on reste dans les querelles byzantines.
On reste dans les querelles byzantines, oui. Et ça va être encore pire après. Mais bon, changement d'empereur, Anastase meurt et le successeur est calcédonien, et donc dépose évidemment Sévère d'Antioche, qui se réfugie naturellement en Égypte, qui est le grand foyer des idées monophysites. Alors, vraiment monophysisme au sens général, hein, pas celui qui est condamné avec Tychès à Calcédoine. Il y a beaucoup de nuances. Et là, il y a même des débats internes dans ce mouvement non calcédonien, notamment avec un autre grand penseur de cette époque, qui est Julien d'Halicarnasse. Alors, le grand débat entre ces deux monophysites, c'est de savoir si le corps du Christ est corruptible ou incorruptible. C'est-à-dire, quand le Christ meurt, est-ce que son corps se décompose ou pas? Alors, ça nous paraît quand même une discussion vraiment de détails théologiques extrêmes, mais ça montre aussi le niveau des débats de l'époque. On était arrivé, on avait poussé très très loin la réflexion sur qui était le Christ. Et,
c'est pas le débat de la primaire du Parti républicain.
Non. Et donc, même en Égypte, en fait, l'Égypte va être divisée entre les partisans de Sévère, les Sévériens et les Julianiens qui vont être... Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à voir une séparation avec trois patriarches d'Alexandrie. Le patriarche officiel le partisan de Constantinople et de la foi de Chalcédoine, le patriarche sévérien et le patriarche julianien.
Donc là, on est au début du 6e siècle.
Début du 6e siècle, 500, dans les années 535, en fait. Et jusqu'alors, il n'y avait qu'un seul patriarche d'Alexandrie. On se retrouve avec trois patriarches. Et ça, c'est une nouveauté. Et là,
donc, c'est un schisme à l'intérieur de l'église d'Alexandrie.
Oui. Et de là naît, en fait, l'église copte actuelle, en fait, qui descend de la lignée sévérienne. Les partisans de Julien d'Halicarnasse disparaissent quand même. Il y a encore des patriarches dans leur lignée trois siècles après.
Et alors l'empereur ne tente pas de mettre tout ce monde au pas avec les
bien
soldats.
Sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est le drame et c'est ce qui va expliquer aussi l'arrivée de l'islam et la grande facilité de l'islam à s'implanter. On va en reparler plus tard, mais à s'implanter dans toutes ces régions, c'est que le pouvoir central de Constantinople a été perçu comme un pouvoir d'oppression pour ces populations. Finalement, ils ont accueilli l'islam comme des libérateurs. Ils n'étaient pas bien dangereux, c'était juste des cavaliers comme ça, pas très nombreux, qui venaient les débarrasser d'un pouvoir byzantin opprimant. Qui avait aussi son système fiscal qui énervait beaucoup les populations. Bon, donc il y a des aspects religieux, il y a des aspects politiques aussi dans
oui,
tout ça qui s'entremêlent.
L'Égypte était toujours considérée comme
le grenier à blé du monde.
De l'Empire.
Oui, oui.
En tout cas,
la terre la plus riche.
D'après ce que j'entendais en Égypte avec le professeur Sadek, en tout cas dans la mentalité copte, la mentalité égyptienne, il considère qu'ils avaient vraiment été traités comme des quasi-esclaves par l'Empire. Et donc, on passe d'un esclavage à un autre. Et finalement, ça ne changeait pas grand-chose, en fait.
Oui, bien sûr. Et là naît deux églises. Et puis il y a une autre perspective dont je ne sais pas si j'en parle tout de suite, mais outre ces questions de spécialistes, de théologiens spécialistes, il y a une dimension aussi sociale et qui va se greffer sur ces dimensions. C'est-à-dire que en Égypte, en Palestine et en Syrie, coexistent deux types de populations. Il y a une population hellénophone qui parle le grec, qui est dans les villes, qui est lettrée, qui possède le pouvoir intellectuel. Et puis il y a les populations locales qui sont toujours là, qui sont plus ou moins hellénisées, mais qui gardent leur système et leur langue. Donc en Égypte, on a les descendants des anciens Égyptiens qui sont toujours là, largement majoritaires, qui parlent l'égyptien, le copte. Et en Syrie, on a l'équivalent avec les araméens, les populations qui parlent l'araméen et qui sont les syriaques. Et en Palestine aussi, les populations araméennes coexistent. Et pendant plusieurs siècles, ça se passe bien. Dans les églises, on a en fait des offices bilingues. On a plusieurs témoignages, notamment d'une pèlerine au IVe siècle, qui s'appelait Égérie. C'est une Espagnole qui fait un grand pèlerinage de plusieurs années au lieu saint, à Jérusalem, mais elle visite tout l'Orient. Elle va au Mont Sinaï, elle va jusqu'à Édesse. Et elle note dans son récit de voyage énormément
c'est
de détails.
C'est une époque où on pouvait voyager...
sans difficulté.
Voilà, d'une région à une autre en passant.
Oui, on a l'impression que les gens ne voyageaient pas, mais en fait, on bougeait énormément dans l'Empire. Et elle note, elle décrit les offices, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que les lectures sont à Jérusalem sont à la fois faites en grec et en araméen, en syriaque, que les psaumes sont chantés à la fois en grec et en syriaque, que les prédicateurs prêchent à la fois en grec et puis recommencent leur sermon en syriaque ensuite. Donc il y a un bilinguisme liturgique qui se passe bien. Mais par la suite, il y aura aussi une séparation entre finalement les fidèles qui sont grecs, qui sont de culture grecque, et les fidèles de culture locale, les coptes en Égypte et les syriaques en Syrie et en Palestine. Et sur les querelles théologiques va se greffer aussi cette distinction. C'est-à-dire que les monophysites vont prospérer dans le terrain local. Les coptes en Égypte vont adopter le monophysisme. Les syriaques en Syrie vont le faire également, et en Palestine. Et majoritairement, les populations grecques vont garder le lien avec Constantinople, c'est naturel, c'est logique, et aussi du coup la foi officielle qui est en vigueur à Constantinople, donc la foi catholique orthodoxe. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on va assister donc à des naissances de nouvelles églises qui vont être plus aussi des églises nationales, et il y a un fort sentiment nationaliste quelque part. Peut-être qu'on colle des catégories du XXe siècle sur ces faits, mais il y a cette réalité qui est importante. Y a un désir d'autonomie face au pouvoir grec de Constantinople, qui est considéré comme oppressant quelque part.
Mais alors, vous avez beaucoup parlé d'Alexandrie et des querelles à Alexandrie, mais que se passe-t-il à Antioche ? Est-ce que c'est le même processus ? Alors, je rappelle que vous écoutez le Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard. Je reçois Henri Adam de Villiers, maître de chapelle à Saint-Eugène-Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris, et aussi à la paroisse russe catholique de la Très-Sainte Trinité, Paris 16e, pour nous parler du concile de Chalcédoine et de ses suites dans le cadre de notre série d'émissions Église d'Orient, pourquoi autant de divisions ? Alors, Antioche.
Alors, juste pour finir sur cette dichotomie linguistique qui va finalement créer deux églises côte à côte, une église grecque et une église locale qui va être soit syriaque, soit copte. La partie grecque va être qualifiée bien plus tard, en fait, de Melkite, c'est-à-dire ceux qui, Melk en araméen, c'est le roi, donc ceux qui restent fidèles au roi de Byzance, en fait, au pouvoir impérial. Et donc, on aura une coexistence de Melkite, donc de culture grecque, byzantine, et de monophysites qui vont être plutôt syriaques et coptes.
Alors en Syrie. Alors bizarrement, maintenant, le terme de Melkite n'est plus utilisé que pour ceux d'entre eux qui sont redevenus catholiques. Il y a Rome. Et les autres églises grecques ne veulent plus utiliser
le terme de Melkite, oui. Mais qui a été quand même, bon, c'est un sobriquet à l'époque, hein. Je suis pas forcément injurieux, mais voilà, enfin, c'est ceux qui restent fidèles à Constantinople en dépit de tout. Et qui conservent les traditions liturgiques byzantines. Parce qu'on va voir aussi que les liturgies se séparent, les églises se séparent, mais les formes liturgiques vont se diviser aussi. Donc le 6e siècle, on a parlé de Sévère d'Antioche, décidément, qui est un des fondateurs d'un monophysisme atténué. Voilà. On a forgé au 20e siècle le terme de miaphysisme, à partir d'une expression de Saint-Cyrille du reste, pour parler de cette doctrine de Sévère, qui est à peu près la doctrine officielle des églises coptes séparées actuelles et également syriaques. On admet de nos jours que ces formules peuvent être entendues dans un sens tout à fait catholique. Et il y a eu plusieurs déclarations communes entre le pape de Rome et le pape d'Alexandrie, par exemple, montrant qu'il n'y avait pas de division théologique sous-jacente, enfin qu'on ne pouvait pas entendre dans les condamnations de Chalcédoine une condamnation des théologies de ces églises, en fait, de ces églises qui sont... difficile à qualifier. Est-ce qu'elles sont orthodoxes? Non. On peut parler d'églises pré-chalcédoniennes, puisqu'elles n'ont pas reçu le concile de Chalcédoine.
Alors ça, venons-en, parce que vous nous dites qu'elles l'avaient quand même un peu reçu, puisqu'elles ne l'ont pas refusé complètement, en fait.
Si, elles le refusaient, parce qu'elles étaient attachées aux formules de Saint-Cyril qui ne collaient pas avec la définition de
Chalcédoine. Mais à partir de quel moment l'ont-elles refusé? Parce que vous disiez que premières années, ça n'avait pas tellement bougé.
Les 50 premières années, jusqu'à la fin du 5e siècle, on n'a pas vraiment une église monophysite. On a des évêques qui professent des théories monophysites, plus ou moins monophysites. Il y a tout un large éventail, et c'est très, très complexe. Beaucoup d'ailleurs refusent eux-mêmes les théories de Tychès. Mais il n'y a pas une église monophysite. Les empereurs, selon leur tendance, vont déposer les uns ou les réhabiliter. La création d'église se fait qu'au VIe siècle. Donc quand même 50 ans après le concile de Chalcédoine. L'énoticon dont j'ai parlé tout à l'heure va être important parce qu'en fait, pour être évêque, il fallait signer ce texte. D'ailleurs, j'ai pas fini avec lui. Ce texte a été décidé par l'empereur de Constantinople qui a confié sa rédaction au patriarche de Constantinople. Mais sans demander l'avis du pape, ni d'un concile, ni d'un synode d'évêques. Et le pape est furieux à l'époque, furieux au point que le pape excommunie le patriarche de Constantinople. Et donc, on parle toujours du grand schisme de 1054, mais il y a déjà une première excommunication, c'est ce qu'on a appelé le schisme d'Acas. Il faut attendre le 60 ans pour que à nouveau ce schisme soit résorbé. Alors Constantinople n'en tient pas vraiment compte, mais Rome et Constantinople ne sont plus en communion pendant plusieurs générations. Ça indique un peu la complexité de ces querelles. Le grand organisateur d'une église monophysite va être un personnage qu'on appelle Jacques Baradet ou Jacques Baradaï. C'est une déformation d'un mot syriaque, bourdoyo, qui veut dire vêtu de haillons. Parce qu'en fait, c'était un moine au départ qui est né près d'Édesse. Donc de culture araméenne, et qui va se faire ordonner évêque au milieu du 6e siècle, notamment appuyé par la fameuse impératrice Théodora, la femme de Justinien, qui a joué un grand, grand rôle dans ces querelles, parce qu'elle a beaucoup séjourné en Égypte, donc elle est plutôt convaincue par les thèses monophysites au sens large, et elle va influer sur son mari. Et Jacques Baradaï est ordonné évêque avec un autre pour les Ghassanides. Les Ghassanides sont ces populations arabes qui sont déjà aux confins de l'Empire en Orient et qui sont chrétiennes. Il y a des Arabes chrétiens déjà depuis bien longtemps. Et ces tribus arabes sont à peu près sur les territoires de la Jordanie actuelle et puis de l'est de la Syrie actuelle. Jacques Baradaï a toujours été dans les idées monophysites. Et il est évêque. Et c'est formidable parce qu'à l'époque, il n'est resté plus dans le monde entier que trois évêques monophysites qui professaient le monophysisme. Et lui, il va avoir une activité extraordinaire, très énergique. Il va commencer par ordonner des prêtres et des diacres à tour de bras. Son biographe de l'époque cite le chiffre fabuleux de 100 000 ordinations. Enfin, il aurait ordonné, ça paraît un peu exagéré sans doute, mais
pour un seul diocèse,
pour tout l'empire. C'est-à-dire qu'il va ordonner en Syrie, il va traverser la police impériale le recherche. C'est pour ça qu'il est déguisé en pauvre air.
Et donc il est déposé de son siège, j'imagine.
matériellement, je crois qu'il n'y a jamais eu d'acte de dépôt parce qu'il était dans un siège qui échappait à l'Empire. Il était sur les confins de l'Empire, il était dans la partie gassanide, mais il n'était pas dans le ressort administratif de l'Empire. Donc la déposition n'a pas pu être faite. Et Jacques Baradaï va sillonner tout l'Orient, aussi bien l'Égypte, la Palestine, l'Asie mineure, la Grèce, et va ordonner. Et au bout d'un moment, il se contente plus d'ordonner des prêtres et des diacres, mais il va surtout ordonner des évêques ensuite, et il va constituer une hiérarchie. Et là, c'est vraiment la création d'une église, d'une nouvelle église, et il dédouble tous les... Il respecte l'organisation ecclésiastique de l'époque, c'est-à-dire que là où il y a déjà un évêque, bah, il ordonne un autre évêque. Et ça, c'est une nouveauté, on n'avait pas
donc
on
là, on
connu
est,
ça encore.
On est au milieu du 6e siècle.
Au milieu du 6e siècle. Et
là,
donc ça
c'est
crée des tensions
de
et des crises extrêmes.
Toute l'Église
bien sûr.
Ou uniquement d'Antioche ?
Tout l'Orient, pas uniquement d'Antioche. On
donc,
croit,
y compris chez Alexandrie.
Dans les ouvrages modernes, on dit souvent qu'il a organisé l'Église en Syrie et que c'est le fondateur de l'Église jacobite, qui porte son nom de lui, d'ailleurs, Jacques Baradaï. Pas du tout, il ne s'est pas du tout concentré sur la Syrie, mais il a une activité dans tout l'Empire, aussi bien en Asie mineure. Alors, il se trouve que la seule hiérarchie qui ait subsisté, ordonnée par lui, est celle de Syrie, les actuels jacobites. Donc, c'est la création de l'Église jacobite. Il a en fait parce que il y avait une autonomie par rapport au pouvoir byzantin central qui était un peu plus importante, donc ils ont pu subsister, mais il a essayé quand même d'établir des églises à Constantinople,
Éphèse,
Alexandrie. Il est allé, alors Alexandrie, il existait aussi la succession de Sévère d'Antioche et de Julien d'Halicarnasse, il est allé à Alexandrie, il s'est entendu avec les Sévériens, il professait la même doctrine de toute façon, et il a aussi ordonné en Égypte, il a fait des sacres épiscopaux en Égypte. Donc il multiplie les sacres partout et il crée une nouvelle église en fait, qui existe toujours, hein, et qui a même une branche catholique désormais.
Qu'on comprenne bien, donc ça, principalement, c'est quand même sur le territoire d'Antioche.
Oui.
Et
la partie qui a subsisté est sur le territoire d'Antioche.
Et le patriarcat d'Antioche ne réagit pas
sa tête est mise à prix, mais...
Parce que le patriarcat d'Antioche, lui, était très chalcédonien.
Ça dépendait de l'empereur en place, hein, mais... Justinien est très embêté dans toutes ces histoires parce que il sent bien que la division de l'Empire est une grande faiblesse pour l'Empire aussi. Et si l'Empire n'avait pas eu ces divisions théologiques, peut-être qu'on aurait eu toujours un empereur byzantin de jour, qui sait. Mais je pense que c'est effectivement ça ce qui a entraîné la ruine. Et c'est, s'il faudra faire une conclusion un jour de nos émissions, mais la seule conclusion à faire, c'est évidemment que la division des chrétiens est mortifère et que le christianisme ne peut être fort et ne peut résister accessoirement à l'islam que lorsqu'il est uni. Dès qu'il est divisé, c'est fini. On est un contre-témoignage. Donc,
Donc là, on voit que s'organise une sorte d'église parallèle.
Une église parallèle, oui.
À la fois en Égypte, avec les deux patriarcats, donc Sévérien et Julianien, et en Asie, en fait, avec Jacques Baradaï.
Oui.
En fait, qui va loin, j'imagine.
Qui va loin, puisque après, il y a à nouveau deux patriarches à Antioche. et donc, on a deux églises séparées.
Et ça, les deux patriarches, c'est à partir de quelle période? On a une idée?
Dès le 6e siècle, oui.
Dès le 6e siècle. Et ça va jusqu'en Inde, j'imagine, puisque actuellement, en tout cas, l'église syriaque orthodoxe, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle elle-même, est très nombreuse en Inde. En fait, la majeure partie des fidèles sont en Inde,
oui. Alors, c'est une autre histoire. Il faudrait consacrer une émission entière au sort de la chrétienté dite de Saint Thomas, puisque c'est des chrétiens qui ont été fondés par Saint Thomas.
On garde ça pour plus tard, peut-être. Si vous le réclamez, chers auditeurs de Radio Courtoisie.
Il faudrait parler aussi de l'Arménie, parce que l'Arménie adhère formellement aux thèses de Sévère d'Antioche et de Jacques de Sévère d'Antioche, enfin de, aux thèses monophysites assez tôt en fait. Hein, elle refuse Chalcédoine au tout début du VIe siècle, en 505.
Mais est-ce que pour l'Arménie, il n'y a pas eu des questions de traduction, des questions d'erreurs de traduction?
Mais pour nous, occidentaux, parce que les termes grecs renvoient à des catégories philosophiques qui échappent au latin, qui échappent à l'arménien, qui échappent au syriaque, qui échappent au copte, en fait. Et toutes ces discussions très précises théologiques sont assez naturelles dans le grec. La langue grecque est un vecteur important de tout cela. Mais... comment traduire hypostase en latin, comment traduire hypostase en arménien, en copte, c'est très compliqué. Et donc, beaucoup de malentendus naissent de là aussi. Hein. Alors, il y a au départ beaucoup d'agitation intellectuelle. Et cette agitation intellectuelle, hélas, se greffe sur des problèmes linguistiques, hélas, se greffe également sur des problèmes économiques, sociaux, politiques.
J'imagine quand même l'Arménie était en dehors de l'Empire, oui. Il y avait également des problèmes politiques.
C'était aussi une affirmation d'indépendance.
Donc l'Arménie, on peut peut-être rappeler donc les origines du christianisme en Arménie. Donc le christianisme remonte au temps apostolique en Arménie.
Oui, puisqu'on dit que plusieurs apôtres auraient passé par l'Arménie, Saint Barthélemy, Saint Matthieu. Et puis c'est la première nation à devenir officiellement chrétienne. Enfin, pas tout à fait.
La deuxième,
l'éphémère royaume d'Édesse, mais qui n'a pas vécu très longtemps. Mais enfin, en tout cas, avec la conversion du roi Tiridate au début du IVe siècle, on a le premier État chrétien encore aujourd'hui.
Et alors donc, je crois que, j'avais entendu, alors je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais que les évêques d'Arménie n'étaient pas présents à
Chalcédoine, non.
Et que quand ils ont reçu Chalcédoine, ils avaient la traduction inverse. Ils auraient cru que Chalcédoine était monophysite.
Oui, alors ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas impossible, effectivement. Car il y a eu beaucoup d'incompréhension en raison des différences de transposition, enfin des différences linguistiques et de la difficulté de transposer des catégories philosophico-théologiques très précises grecques dans des langages qui n'avaient pas les mots pour les exprimer. Dans des langues qui n'avaient pas les mots pour les exprimer.
Parce que l'Arménie est dans un cas à part, en fait. Bien sûr, ils font partie de ces églises, on va dire, pré-chalcédoniennes, dites monophysiques. Donc, comme l'église syriaque et jacobite et l'église copte. Mais il n'y a pas de doublon.
Non.
Puisque
l'Église apostolique arménienne
a suivi cette.
C'est nous qui avons créé un peu idiotement les doublons par la suite.
Oui, mais ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Mais il n'y a pas d'église grecque arménienne.
Ça n'a jamais existé, non.
Donc comment
pas d'église malkite arménienne. Voilà.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, que toute l'église arménienne ait fait bloc?
Bon, je pense qu'il y avait un réel désir d'indépendance, en fait, et une opposition avec le monde grec qui a toujours traversé l'histoire. Les relations entre les Byzantins et les Arméniens ont toujours été un peu complexes. Hein. On a encore très tard, dans le Moyen-Âge, des polémiques vraiment stériles qui apparaissent même dans l'office byzantin, puisque une des semaines de l'avant-carême a été instituée pour lutter contre un jeûne que les Arméniens faisaient, enfin des choses un peu... Donc pendant cette semaine-là, on a le droit de manger de la viande parce que les Arméniens font le jeûne, en fait. Donc c'est des choses quand même très, très spéciales, mais qui donnent un peu la nature de l'acrimonie qui pouvait exister parfois entre ces deux nations, mais bon...
Donc là, au VIe siècle, au milieu du VIe siècle, on se retrouve avec, donc pour schématiser, pour récapituler, avec d'un côté une église de Rome donc qui n'est plus appuyée sur l'Empire.
Qui a fait schisme avec Constantinople.
Voilà.
Qui est sous les coups des barbares en même temps, qui est le Rome est envahi, donc il faut se remettre ça aussi en perspective.
Et en Orient, donc une église de Constantinople qui est adossée à l'empereur.
Oui.
Et qui est en but à des créations d'églises parallèles, on va dire, qui refusent, qui professent une foi un petit peu différente.
Et qui,
à la fois en Égypte, à la fois en Asie, et puis aux marges de l'Empire, vous avez l'Arménie, et puis...
Il y a d'autres marges dont on n'a pas parlé.
Voilà,
Il y a une marge bien oubliée qui est le sud de l'Égypte avec la Nubie qui a été chrétienne jusque tard dans le Moyen-Âge. Et on a trois évêchés en Nubie. Et alors deux d'entre eux sont monophysites et le troisième est chalcédonien.
Alors qu'est-ce que c'est la Nubie aujourd'hui ?
La Nubie, c'est
la Libye
ou le Soudan. C'est la région un peu au nord de Khartoum. C'est la zone entre Khartoum et la frontière égyptienne, jusqu'à Abou Simbel à peu près. Et il y a eu une très belle civilisation chrétienne, malheureusement oubliée, qui est tombée sous les coups de l'islam. Et il y a eu trois royaumes, en fait, nubiens. Leur problème était, là encore, le manque d'unité. Et donc, dès qu'on est désunis face à l'islam, c'est toujours pareil, on se fait avoir. Et donc, deux royaumes avec deux évêques qui étaient monophysites, et le troisième qui était chalcédonien, évidemment. C'est un peu la nature humaine hein, de créer des divisions et de la rivalité. C'est dans le péché originel, c'est la jalousie de Caïn et Abel. Hein. On a ça depuis les origines, hélas. Et malheureusement, ça se traduit de tellement de façons dans l'histoire humaine. Et hélas, également, ça a eu une influence dans les histoires ecclésiastiques.
Une dernière... marge de l'Empire.
Une autre marge encore. On a parlé des Ghassanides. C'est un point important. C'est ces Arabes qui sont sur la marge de l'Empire. C'est ces tribus qui nomadisent sur les marges de la Palestine et de la Syrie et qui deviennent chrétiennes très tôt et qui adoptent le monophysisme. Là encore aussi pour... quelque part une revendication d'indépendance qui est la même que les Syriaques de Syrie. Et puis il y a une très très belle histoire aussi et un des fleurons du monophysisme, c'est l'Éthiopie, l'actuelle Éthiopie, qui est le deuxième ou troisième royaume chrétien, puisque l'Éthiopie devient chrétienne avant l'Empire romain, avant la France, bien loin avant la France.
Juste après l'Arménie.
Juste après l'Arménie et juste après le royaume d'Édesse. Et l'Éthiopie devient chrétienne, c'est une très très belle histoire. C'est un naufrage en fait parce qu'on voyageait beaucoup et c'était un géographe qui manifestement allait en Inde en bateau sur la mer Rouge qui venait de l'Empire romain et deux de ses esclaves étaient chrétiens, Frumens et Édèse, et ils échouent. Les deux esclaves sont amenés à la cour du roi d'Aksum. Là, ils parlent du Christ, ils parlent de leur foi, ils parviennent à annoncer l'évangile et l'empereur se convertit.
Le roi d'Aksum était païen ou juif ?
Païen, oui, païen. Païens, mais c'est vrai que ces populations-là étaient très proches du judaïsme déjà, donc il y a une proximité qui a permis d'apporter la foi. Et puis il y a déjà cet épisode dans les Actes des Apôtres de la conversion de l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie. Alors c'est un peu problématique de savoir ce qu'on désignait sous le nom d'Éthiopie à l'époque, parce que les géographes, pour eux, l'Éthiopie, c'était plutôt ce qu'on appellerait, nous, la Nubie, le sud de l'Égypte, lorsqu'on longe le Nil. Mais si on reprend le texte de Saint-Luc dans les Actes des Apôtres, on voit que l'eunuque de la reine Candace est en train de lire le prophète Isaïe. Et donc, il est sans doute pas païen, et donc il a sans doute déjà une forte proximité avec le judaïsme, et ça collerait plus avec ce qu'on sait de l'Éthiopie de l'époque. Donc ce serait pas impossible déjà qu'il y ait des premières conversions de cette époque.
Parce que pourtant, la dynastie éthiopienne se revendique comme descendant de Salomon, donc
voilà,
c'est étonnant
c'est
qu'il soit pas juif.
On a peu de lumière sur ce qu'était la religion des Éthiopiens avant leur conversion au christianisme. Néanmoins, il y a quand même quelques temples en Éthiopie qui datent de la de l'époque ancienne d'Aksum, et on ne sait pas très bien les cultes qui s'y rendaient. Ça, pourquoi pas, ça pouvait être aussi bien des gens de
Oui, je crois
synagogue,
qu'on
mais...
voit un trône en pierre à Aksum.
Oui, mais tout ça est un peu mystérieux. En tout cas, le christianisme s'épanouit dans l'empire d'Aksum. Et cet empire, dès le concile de Nicée, on parle d'un évêque d'Éthiopie, d'un évêque d'Aksum qui dépend de l'évêque d'Alexandrie. Et donc il y avait toujours eu un rapport très fort entre l'Égypte et Aksum, alors même que Édèse et Frumence c'était syrien. Mais il y a toujours eu ce lien. Et naturellement, l'Égypte va adopter les positions monophysites. L'Éthiopie, pardon, va adopter les positions monophysites qui sont le logique développement de l'école d'Alexandrie. À tel point d'ailleurs que, enfin, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que on a un roi d'Éthiopie au 6e siècle. Zut, comment il s'appelle? Son nom ne me revient pas. Qui va être un grand chrétien et qui va venir au secours des communautés chrétiennes du Yémen, qui sont persécutées par les tribus juives du Yémen. Et donc il va envahir le Yémen, il va mettre fin à l'hégémonie des troupes, des populations juives du Yémen, et il va secourir les chrétiens de cette partie de l'Arabie. Et c'est avant l'arrivée de l'islam. Et ce roi est saint pour l'Église d'Éthiopie, bien sûr, mais également pour l'Église romaine, alors même qu'il était monophysite. Mais il est dans le calendrier romain, il est au martyrologe romain. Donc finalement, ces querelles n'ont pas été toujours aussi extrêmes qu'on peut le penser.
Alors merci Henri Dandevilliers, on poursuivra dans une prochaine émission le développement de ces églises monophysites.